Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Je parlais des hochets aux phtalates parce qu'on s'est rendu compte qu'il restait des phtalates dans les jouets et du coup on ne comprend pas très bien pourquoi cette substance a priori interdite est encore présente et notamment dans des objets destinés aux enfants. Bonjour Henri Boulier, vous êtes sociologue à l'INSERM. Expliquez-nous tout d'abord ce que sont les phtalates.
Bonjour. Donc les phtalates sont des molécules qui sont des plastifiants. On en parle beaucoup en ce moment parce que ce sont des perturbateurs endocriniens. Ils sont produits depuis très longtemps, depuis les années 20-30. Et on estimait dans les années 2000 qu'il y avait plus d'un million de tonnes qui circulaient en Europe. Ils sont très répandus parce qu'ils sont faciles à synthétiser et pas chers. Et on les trouve dans énormément de produits du quotidien. Donc vous venez de parler des jouets, mais il y a aussi plus généralement le plastique en PVC, les sols en vinyle ou les rideaux de douche.
Bon, alors quand vous dites perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que ces perturbateurs endocriniens sont accusés de causer?
Alors en général, c'est des perturbations du système hormonal, donc c'est des problèmes de développement qui sont particulièrement problématiques quand c'est des expositions qui touchent les enfants.
D'où l'intérêt des hochets aux phtalates.
D'où l'intérêt des hochets aux phtalates.
Et alors, ça, on en est certain. Ça fait pas partie des spéculations. C'est aujourd'hui une certitude.
Non. Alors, ce qu'il faut comprendre, quand on parle d'interdiction, en fait, il faut regarder un peu ce que ça recouvre.
Je parlais de la nocivité des phtalates.
Ah non, il n'y a pas d'ambiguïté sur la nocivité.
Ça, c'est une certitude.
Non, il n'y a pas d'ambiguïté sur la nocivité.
Alors ensuite, donc, il y a une ambiguïté sur la notion d'interdiction, ce qui n'est pas très rassurant.
Non. Donc il y a plus d'ambiguïté scientifique. En revanche, on vit dans des mondes où les systèmes réglementaires sont très fragmentés de manière à pas trop contraindre les activités économiques. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en général, même des molécules qui sont identifiées comme des perturbateurs endocriniens sont jamais vraiment complètement interdites. On a en général des usages bien particuliers qui sont interdits. Donc en l'occurrence, là, on a une interdiction normalement dans la composition des jouets, il ne devrait pas y avoir de phtalates. En l'occurrence, il y a plein de dérogations. Et puis il y a aussi...
Quel type de dérogation? Parce que c'est ça qu'on comprend pas du tout, quoi.
En fait, pour le dire vite, pour les produits importés, il y a assez peu de contrôle. Donc ça veut dire que aujourd'hui, on arrive dans des situations un peu paradoxales où on peut plus fabriquer, par exemple, des rideaux de douche qui contiennent des phtalates en Europe, mais par contre, on peut les importer.
On peut les importer en fraude ou
c'est complètement légal.
C'est complètement légal ça qui est vraiment incompréhensible. Alors ensuite, on se dit qu'il y a peut-être des degrés de nocivité, c'est-à-dire quelque chose que l'on met dans sa bouche lorsqu'il s'agit donc d'un jouet, c'est évidemment peut-être plus dangereux qu'un sol en phtalate, non?
Ouais, probablement. Enfin, ça pour le coup, on sait pas très bien. C'est là où il y a aussi les limites des connaissances scientifiques.
Pourquoi dans ce cas-là utilise-t-on encore des phtalates?
On utilise des phtalates comme plein de produits chimiques parce que c'est très difficile de s'en débarrasser. Comme je disais, ils sont présents dans beaucoup de produits de consommation. La question, c'est aussi par quoi on les remplace, quoi.
Et du coup, en fait, on est un peu dans le noir parce que il y avait également cette discussion au sujet des parabènes. Alors, les parabènes, c'est plutôt dans les crèmes.
Henri
Boulier, expliquez-nous aujourd'hui ce qu'on reproche aux parabènes et où on en trouve.
Alors les parabènes, on les trouve plutôt dans le monde du cosmétique, qui est encore un monde différent de celui des phtalates, parce que les phtalates et les produits chimiques industriels, on est dans le monde de la réglementation européenne REACH, et dans le monde des parabènes, on est du côté des cosmétiques. Il y a très peu de réglementation.
La réglementation REACH, c'est celle qui interdisait certains produits chimiques.
Ouais. Donc c'est un règlement qui a été adopté au début des années 2000, en 2006, qui était censé révolutionner le contrôle. Et puis comme on le voit sur le cas qui nous réunit ce matin, en fait, les dérogations sont multiples. Et en fait, pour des industriels qui connaissent bien les affres, les exceptions, etc., en fait, c'est business as usual.
C'est ça qui est en fait terrible. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait militer pour que l'Europe fasse une interdiction plus forte de ces substances?
C'est toujours la question de l'organisation. Comment est-ce qu'on a imaginé ces systèmes réglementaires? Ils ont été imaginés. Ce qui est, c'est qu'on a cette idée que on va prononcer des interdictions fermes. En réalité, c'est jamais le cas. En permanence, que ce soit en droit ou en toxicologie réglementaire, tout le jeu, c'est de placer un curseur. Donc, à quelles conditions est-ce qu'on met ou est-ce qu'on retire un produit du marché? Et donc c'est une question qui est pas du tout purement scientifique, qui est une question qui est en fait politique et qui consiste à poser dans quel monde on veut vivre et de quel produit on s'entoure, etc.
Alors il y avait justement cette discussion chez les industriels, cette discussion sur les effets pervers de ces interdictions. Alors on disait par exemple pour les réglementations REACH qui sont assez contraignantes, par exemple en parfumerie où on est obligé de remplacer certaines molécules par d'autres, on disait mais alors attention parce que vous dites que ce que l'on a aujourd'hui c'est toxique, mais on peut le remplacer aussi par d'autres choses qui se révéleraient toxiques. Où en est-on à ce sujet, Henri Boulier? Par exemple, les parabènes, je crois que ça sert à conserver les crèmes, mais de toute façon, il faut des conservateurs aux crèmes et donc les prochains pourraient également être assez toxiques.
Ouais, c'est un problème un peu sans fin. C'est toujours cette histoire du curseur. On sait qu'un produit est toxique, mais on ne sait pas exactement par quoi on va le remplacer. Peut-être par un produit plus toxique. On a beaucoup parlé du bisphénol A. Le bisphénol A, typiquement, c'est un bon exemple de ça. On a du bisphénol A dans les biberons. On dit le bisphénol A est dangereux, tout le monde se mobilise, mais par quoi on remplace? Et en l'occurrence, une des options, c'est le bisphénol S. Et d'après les études existantes, il est pire que le premier. Donc
sans compter qu'il y avait aussi les biberons en verre qui étaient repoussés parce qu'on disait que s'ils se cassaient, évidemment, ça pouvait être dangereux pour les enfants. Du coup, l'expertise, la connaissance scientifique des agences de sécurité sanitaire françaises ou européennes hein, d'ailleurs, est-elle aujourd'hui suffisante selon vous sur ces sujets?
En fait, il y a deux niveaux de réponse. D'un côté, il y a de plus en plus d'expertise scientifique, c'est des procédures de plus en plus compliquées. Mais en fait, les agences sont dans une situation très inconfortable parce qu'en fait, elles travaillent uniquement ou quasiment uniquement avec des études qui sont produites par les industriels, parce qu'il n'y a pas de recherche publique qui permet de faire ça. Et même dans les cas où il y en a, il y a des questions de conflits d'intérêts qu'on étudie en ce moment d'ailleurs avec des collègues dans le domaine du médicament. C'est un peu le même problème. Du coup, le problème, c'est pas uniquement un problème d'expertise, et souvent, c'est pas sur le terrain de l'expertise que ces questions-là sont résolues, que ce soit dans des cas comme le glyphosate, le médiateur ou les phtalates. En réalité, au bout d'un moment, c'est des décisions politiques qui sont prises, avec des critères politiques et des critères économiques, quoi.
Merci beaucoup Henri Boulier, je rappelle que vous êtes sociologue à l'INSERM. On a compris la leçon de la crème, pas de crème, jamais de crème.